Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Jessica Thivenin n'est pas contente. Qui est Jessica Thivenin, se demandent peut-être certains d'entre vous. Je vais vous le dire. Jessica Thivenin est une des héroïnes de l'émission de télé-réalité Les Marseillais, dont la diffusion sur la très exigeante chaîne de la TNT W9 vient de diffuser le 61e épisode. Maintenant, si vous me demandez ce que vont faire des Marseillais sur W9, je vous dirais, on va pas non plus passer la soirée là-dessus, qu'il s'agit d'une bande de jeunes et joyeux Marseillais, donc, dont l'émission scrute les relations au jour le jour avec le plaisir d'un entomologiste assistant à la parade nuptiale d'une blatte de Madagascar. De la bonne télé-réalité de merde, quoi. Donc, Jessica Thivenin n'est pas contente parce que la marque de chaussures Louboutin, vous savez, ces célèbres escarpins à semelles rouges, refuse de continuer à apparaître dans la série au prétexte que cela nuit gravement à son image de marque. Jessica a parfaitement raison et la maison Louboutin a fini par l'admettre, au point qu'en l'honneur des Marseillais, ceux de W9, elle lance dès la saison prochaine une splendide collection de mocassins à glands et de sandales orthopédiques pour handicapés du bulbe, y compris les plantaires.
France Inter.
Pop-pop-pop.
Antoine de Caunes.
Sale histoire. Au menu de Pop-pop-pop, on change de registre et on parle non pas de bulbe, mais de bubu-bulle avec l'auteur-dessinateur Manu Larsenet. Bonjour Manu Larsenet.
Bonjour Monsieur de Caunes.
Bonjour, nous sommes ravis de vous avoir dans cette émission.
C'est un plaisir qui est tout à fait... réciproque.
Attendez de voir l'émission. À mes côtés, Charline Roux. Bonjour, Charline.
Bonjour, Antoine. Bonjour, monsieur Larson.
Bonjour, madame.
Dites-moi à propos de dessin, vous dépassez encore niveau coloriage, vous?
Si vous me demandez un bonhomme, je vous fais des croix et un rond.
Ok, rassurez-vous Manu, la solution avec le numérique, et nous allons en parler tout à l'heure dans l'émission. Voilà pour le menu, je laisse à un autre auteur de BD, le papa de Lapineau, le soin de lancer cette émission.
Bonjour, je m'appelle Lewis Trondheim et vous écoutez Pop Pop Pop.
Lewis Trondheim en un mot, Manu Larsenet.
Ah, c'est un des rares copains, ouais. Uh-huh. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. J'ai travaillé avec lui et j'ai vraiment énormément appris. Puis après, j'ai arrêté parce qu'il fallait arrêter d'apprendre, faut pas non plus pousser.
Faut faire à son tour après. Bien, du pop et des bulles, pop, pop, pop. C'est parti. Manu, ici, il existe une question encore plus lancinante qu'une réplique de l'alinéa. Et cette question, c'est... Manu Larsenet, pour vous, c'est quoi la pop culture?
Eh bien, écoutez, monsieur de Caunes, je n'en ai aucune idée. C'est une catastrophe. Non, mais c'est vrai, hein, depuis hier, j'y réfléchis, parce que bon, ben, on m'a dit, essaye de réfléchir à ça. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est Warhol. C'est Warhol. En fait, je suis un peu obsédé, en fait, par l'histoire de l'art. Et c'est ce qui se rapproche le plus pour moi de la pop culture, c'est ce qu'a fait Warhol.
C'est-à-dire quelque chose qui peut se reproduire à l'infini?
Qui est en même temps de la culture, puisqu'on parle de ça, c'est-à-dire c'est de l'art, quand même, Warhol. Et en même temps, il prend dans la société tout ce qui s'éloigne de l'art. Donc il ramène ce qui s'éloigne dans le giron de l'art. Pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que vous appelez pop culture, mais c'est peut-être sans doute plus large, bien plus large que ça.
La pop culture, je la vois sur vous, moi, en fait. Hein. Sur vos bras, sur votre joli t-shirt NoFX.
Oui, alors vous avez tatoué. Et
ouais.
Je suis tatoué, Manu. J'ai un t-shirt NoFX. C'est de la pop culture, NoFX?
Bah, bien sûr.
Ah bon, bah alors c'est beaucoup plus large que ce que je pensais.
Vous pouvez nous expliquer ça, Charline, s'il vous
plaît? C'est un groupe de punk rock, en fait. Donc ça peut très bien rentrer dans la pop culture.
D'accord.
Comme le tatouage.
Voilà, vous même pas besoin de définition, vous êtes la pop culture, Manu Larsenet.
Je représente moi-même la pop culture.
Mais pourquoi est-ce que je lui ai demandé? Bon, Manu Larsenet, avant de parler de pop de culture et de pop culture, écoutons le premier morceau de l'émission signé d'un artiste pop et queer, Ezra Furman. Il met les robes de sa maman, du rouge à lèvres, comme Simon Arestat, notre jeune stagiaire, et ça c'est pop. On écoute le morceau Love You So Bad.
You know I love you so bad. I don't believe in love. You know I love you so bad. So bad. You know I love you so bad. Like the kid in the back of the classroom. See the blackboard so bad. You know I love you so bad. Like the kids skipping class in the bathrooms, sneaking cigarettes underneath the football bleachers, baby, so bad. You know I love you so bad.
So bad, so, so
Love You So Bad, c'est un morceau signé Ezra Furman et extrait de l'album Transangelic Exodus. Et on retrouvera ce Ezra Furman sur la BO du prochain film de James Cameron Mitchell, dont nous parlerons bientôt. John, pardon. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un des Manu les plus connus de la pop culture. Est-ce Manu, le petit diminutif de notre président? Manu, le meilleur pote de Titeuf? Le Manu de Manu tu descends? Ou le dessinateur Manu Larsenet? Le suspense est absolument insupportable. Passons au pop portrait pour avoir la réponse. Alors un pop portrait, c'est votre portrait Manu, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Rouro.
Aujourd'hui, nous recevons un auteur qui a le goût du risque, le sens du trait et très peu d'appétit pour, je cite, la jacasserie. On va donc miser sur les deux premières spécificités hein, pour cette heure à passer, sinon ça va être compliqué. Et ça tombe bien parce qu'il y a de la matière avec une œuvre comme celle de Manu Larsenet. Alors oui, je dis œuvre, même si notre invité prétend, je cite, « La moitié du temps, je ne fais rien, je baille aux corneilles. » Là, Manu, je m'inscris en faux. Antoine et moi pouvons en témoigner. Si le baillement était un signe de productivité, on aurait à nous deux écrit à peu près trois fois l'équivalent de Guerre épée. J'en reviens donc à votre œuvre colossale des débuts chez Fluide Glacial, des travaux chez Spirou, puis Glénat, tout en cofondant une maison d'édition, Les Rêveurs, puis chez Dargaud, Les Cosmonautes du Futur, Le Retour à la Terre, Le Combat Ordinaire, votre Valérian, et puis pardonnez-moi ce langage trivial, Le Coup de Poing dans ma gueule, Blast, et les deux tomes sublimes du rapport de Brodeck d'après Claudel. Ça valait bien une expo, bizarrement pas baptisée Le Travail d'un mec qui baille, mais L'Adieu au papier. Et avant qu'on en parle, Manu, pouvez-vous juste préciser aux auditeurs que c'est indépendant de notre volonté? Non, parce qu'hier on recevait un photographe qui veut plus photographier, aujourd'hui un auteur de BD qui veut plus de papier. J'ai peur qu'un lien ne soit fait, que ça nous soit reproché à un moment. On ne veut pas d'ennui, nous.
Non, c'est pas de votre faute, bien entendu. Vous n'y êtes pour rien.
D'accord.
Nous y sommes strictement pour rien. Le goût du risque, le sens du trait, très peu d'appétit pour la jacasserie, ça vous correspond bien, ça, Manu Larsenet?
J'ai beaucoup d'appétit pour la jacasserie, mais souvent on ne rencontre pas des gens très intéressants pour jacasser. Mm-hmm. Donc là, je suis content. Il y a d'autres fois où je suis beaucoup moins content. Donc non, je suis pas. Ça, tout dépend de l'adversaire.
Très bien, nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes des partenaires. Manu Larsenet, que faites-vous de vos longues soirées d'hiver dans le Beaujolais région dans laquelle vous vivez? Comment occupez-vous vos nuits? Réponse avec votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série. Et pour le film, vous avez porté votre choix sur Down by Law. C'est un film en noir et blanc réalisé par Jim Jarmusch, sorti en 1986 dans le Bayou, en Guyane. Un monde de malchance et d'ennui pour Jack et Zach. Ces deux paumés qui se retrouvent en prison et rencontrent Roberto, rempli de l'entrain qui leur manque. Il les entraîne à s'évader. Écoutons un extrait.
Ice cream. You scream, we all scream for ice cream. Bon, non, aspect. Ice cream, huh? You scream, we all scream for ice cream. You understand? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream.
Un des plus beaux films qui soit pour vous, Manu Larsenet. Pourquoi?
Il y a plein. Alors déjà, il y a trois acteurs incroyables, dont un, je me rappelle jamais le nom, mais il y a quand même Tom Waits et Roberto Benigni plus.
Mm-hmm. John Lurie.
Merci, je me rappelle jamais de son nom. Merci beaucoup.
John Lurie.
Et ils sont incroyables, tous les trois, dans un style différent. La moitié du film se passe en prison, donc on pourrait dire que c'est quand même relativement pénible. Or, c'est hilarant. Formellement, c'est un noir et blanc très contrasté, donc parfait. C'est des petites choses. On peut pas dire que c'est une grosse histoire avec des rebondissements, des machins. C'est plein de petites choses de l'underground, quoi, de cet endroit-là. Tom Waits qui aime les vieux vinyles, qui se fait jeter à la rue. Et puis j'aime Jarmusch. Tout ce qu'il fait, j'aime. Il y a du temps. Il y a le temps dans ces films.
Ce film-là en particulier, vous l'avez regardé juste avant d'écrire et de dessiner Blast.
Oui, je l'ai revu avant, pour le noir et blanc. Pour voir comment lui avait utilisé le noir et blanc et comment je pouvais, moi, me lancer dans... Essayer d'avoir une ambiance un peu... Essayer de créer une ambiance un peu semblable.
Très bien.
Je ne sais pas, mais j'ai tenté le coup.
Vous les transformez, j'ai envie de dire.
Oh, vous êtes gentil.
Pour la série, pour vous, c'est Oz, une série américaine créée par Tom Fontana, un oncle lointain de notre Ghislain à nous, notre réalisateur. Une série diffusée entre 1997 et 2003 sur HBO, direction la prison de haute sécurité Oswald State Correctional Facility, surnommée Oz, pour écouter un teaser.
Oz. That's the name on the street for the Oswald Maximum Security Penitentiary.
Oz is retro. Oz is retribution. You want to punish a man? Separate him from his family.
separate him from himself, cage him up with his own kind.
Burn so crooked, the poet likes to spit, big nigga.
Alors il y a le choix hein, parmi les séries aujourd'hui.
Ouais. Mais il y en a plein que j'aime beaucoup. Ouais. Mais celle-là m'a marqué.
Pourquoi celle-là en particulier?
Sans doute parce que c'était une des premières qui est arrivée en téléchargement en France, en VOST, et que les réalisateurs là avaient déjà fait des avaient déjà suivi des gens en prison, donc ils connaissaient déjà bien l'univers carcéral et ce qu'ils ont fait avec assez peu de moyens, parce que globalement ça se passe quand même en prison, donc c'est pas non plus fou. Il y a des études de caractère à n'en plus finir sur un nombre de personnages incroyables. Il y a une étude de ce que c'est que des gens enfermés ensemble, les tensions raciales, religieuses et tout ça. Et en même temps, ça se regarde comme un Dallas. Enfin, c'est aussi passionnant que ça, quoi. Comme quoi, avec la douleur, avec la difficulté, avec des choses dures, on peut faire des choses qui accrochent et qui apprennent un peu aux gens.
Généralement, ceux qui aiment Oz l'opposent à Prison Break.
Ah oui.
Oui.
Pour des raisons évidentes.
Dans les deux, il y a une très bonne série. Mm-hmm. Voilà.
Okay. Oz, c'est une série que vous arrivez à revoir?
Bien sûr, ouais.
Vraiment?
Ah oui, ça fait la troisième fois que je la revois. Ah ouais. Mais parce que j'ai pas de mémoire, j'ai une mémoire de poisson
d'accord,
rouge.
Non, parce que c'est quand même très éprouvant.
Dû sans doute à vos substances.
Non,
que
on peut pas le savoir.
Mais... dû sans doute aux boissons
que on va pas le savoir
à l'âge.
déjà c'est très long, il y a quand même je sais plus 5 ou 6 saisons. Mm-hmm. Donc on a le temps de voir venir et il y a surtout beaucoup de personnages et beaucoup de points de clivage, c'est-à-dire qu'à un moment il y a une révolte, à d'autres moments au contraire ils se font massacrer. Donc il y a toujours un thème qui est tiré sur 5 ou 6 ou 7 épisodes, donc ça fait comme un grand film, puis on repasse sur autre chose. Et il y a tellement de personnages, si vous voulez, qui sont tous tellement intéressants qu'on n'est pas déçu quand on passe d'une histoire, d'une sous-histoire à une autre. Mmh. Et ça, je trouve, c'est un tricot magnifique, quoi.
Alors la prison dans Don't Buy Low, la prison de Oz, vous aimez bien la prison, quoi.
Je trouve qu'on connaît mieux les gens quand ils sont enfermés.
Une fois qu'ils sont passés par là.
c'est possible.
Bien, passons aux livres. Pour les livres, vous choisissez Voyage au bout de la nuit.
Ah oui.
Alors non, ce n'est pas l'émission de C8 hein, dans laquelle des jeunes et jolies filles lisent des livres sur un canapé. Non, c'est le livre écrit par Louis-Ferdinand Céline, publié en 1932. Écoutons Denis Podalydès, qui occupait votre siège il y a à peine 48 heures, en lire un extrait.
Le maréchal des logis Barousse vient d'être tué, mon colonel. Et alors?
Il a été tué en allant chercher le fourgon à pain sur la route des Étrapes, mon colonel.
Et alors?
Il a été éclaté par un obus.
Et alors, nom de Dieu ?
Voilà, mon colonel.
C'est tout ?
Ben oui, c'est tout, mon colonel.
Et le pain ?
Demanda le colonel. Ce fut la fin de ce dialogue, parce que je me souviens bien qu'il a eu le temps de dire tout juste « et le pain ?» Et puis ce fut tout. Après ça, rien que du feu, et puis du bruit avec.
Denis Podalydès qui lit cet extrait de Voyage au bout de la nuit de Céline. Vous faites partie de ceux pour qui le voyage a changé une fois pour toutes le regard qu'il porte sur la littérature et sur l'écriture?
Absolument. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Avant, j'étais plutôt lecteur. Et après, j'ai dû lire 3-4 livres dans ma vie parce que je trouve que rien n'est au niveau de ce livre-là. J'ai pris un choc sur le fond, sur la forme, sur la dureté, l'âpreté de son écriture et de ce qu'il raconte, que je me dis, voilà, dans cet univers-là, vers ce but-là, on va pas pouvoir faire beaucoup mieux que ça. Et chaque fois que je lis des choses qui tentent de parler un peu de douleur ou de noirceur et tout, je trouve ça fade par rapport à ce qu'a fait Céline. Vraiment, vraiment, ça a été maintenant j'ai du mal à lire, à lire des choses s'il n'y a pas cette puissance.
Pourtant, c'est en lisant Philippe Claudel que vous avez eu cette envie d'adapter son livre, le rapport de Brodeck. Y a-t-il un autre écrivain vivant de préférence avec qui vous pourriez envisager de travailler?
Alors, vraiment, je lis très peu. Je suis vraiment un nulard là-dessus. Donc, oui, sans doute.
Il existe.
Plein, sans doute, mais je ne sais pas qui, encore.
Bon. Ensuite, Pénac nous écoute, c'est bon pour lui. Ensuite, nous vous avons demandé de choisir un jeu vidéo et la direction Raccoon City, paisible petite ville du Midwest des États-Unis, car vous choisissez Resident Evil. Je vous plonge dans l'ambiance. Écoutez.
Daddy's coming. We need to go. We need to go now!
What the fuck? What is that?
dans cette ville. Des dizaines de personnes sont enlevées et ne sont jamais retrouvées. Certains affirment que les victimes auraient été dévorées. Vous avez tué combien de zombies durant votre vie de gamer?
Je ne suis pas un grand gamer. Et je ne suis pas très amateur de tuerie de zombies, mais par contre, j'adore les jeux où j'ai peur. Uh-huh. Et ça, on éteint la lumière, on prend une cigarette, on va dire, et on joue à ça seul dans le noir. Et là, on rentre dans le jeu.
Et là, il y a une petite montée de parano.
Là, c'est une nuit blanche garantie derrière.
Tous les jeux font pas ça. Je me rappelle de ça, quoi. De rester des nuits entières terrifiés sur le canapé à me dire, oh, ça va arriver, il y a un truc qui va arriver là. J'ai adoré ce truc.
Bien, Manu Larsenet, terminons cette pop liste avec la chanson. Et pour vous, c'est cette balade. Skyscraper du groupe Bad Religion, sorti en 93 sur l'album Recipe for Hate. Vous l'écoutez pour vous endormir, ça?
Je l'écoute quasiment toutes les semaines. C'est le premier album de punk que j'ai écouté en entier de ma vie. J'étais dans un skatepark et à un moment, il y a la musique qui crache ce morceau-là, Skyscraper. Et là, je reste sur place. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, tout le monde connaissait, évidemment. Donc, je crois que je lui ai piqué la cassette. Je lui ai volé la cassette à la fin du concours de skate. Je suis parti chez moi et j'ai écouté ça en boucle. Et jusqu'à aujourd'hui, j'écoute encore ce disque-là.
Vous connaissez la version acoustique de Skyscraper?
Alors, de ce morceau-là, non.
Oh, vous voulez écouter quelques mesures?
Ah, avec plaisir.
Écoutez, c'est magnifique. They climb so we can reach anything we may propose. Manu Larsenet en train d'harmoniser sur la version acoustique de Skyscraper du groupe Bad Religion. Bien, alors, je résume. Down by Law, Oz, Voyage au bout de la nuit, Resident Evil et Skyscraper. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
Oz is retribution. You want to punish a man? Separate him from his family.
What the fuck? What is that?
Et puis ce fut tout. Après ça, rien que du feu. Et puis du bruit avec.
Ça vous ressemble, ce boogie-boogie de
culture? C'est très très réussi. C'est très réussi, c'est-à-dire réussir à bousiller en même temps Céline, Bad Religion. C'était magnifique, c'est un exercice magnifique que vous avez fait.
Vous partez avec si vous voulez.
Ça vous peut écouter, votre répondeur. Non, je vais vous le laisser.
Manu Larsenet, poursuivons ce pop-up avec un morceau qui aurait pu figurer dans votre pop-list, les Red Hot Chili Peppers.
Yeah.
Scar Tissue.
Oh yeah!
Your heart in case your health, 'cause with the birds shed is so long. close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds of share, with the birds of share this lonely view, and with the birds of share this lonely view, with the birds of share this lonely view.
Car Tissue, morceau des Red Hot Chili Peppers, c'était en 99 sur l'album Californication, et c'est aujourd'hui dans vos oreilles grâce à Pop Pop Pop, et ça fait plaisir à Manu Larsenet.
Ah, pas qu'un peu, ouais.
Et pas qu'un peu, hein.
Californication, magnifique album, magnifique.
Voilà Manu Larsenet qui est notre invité aujourd'hui. Manu Larsenet, il se passe quelque chose d'important dans le monde de la BD. Quelque chose de très important. Quelque chose de très 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 important même. Aujourd'hui, vous abandonnez le papier et le crayon pour la tablette graphique. C'est bien ça, Manu Larsenet.
C'est exactement ça. Mais alors, vous l'annoncez avec une emphase. Et j'ai envie de dire, je suis ton père. Mais oui, j'abandonne le papier. Ouais, j'abandonne le papier et les outils que j'utilisais depuis maintenant quasiment 35 ans.
Alors, l'adieu au papier, c'est le nom de l'expo qui vous est consacré à partir de demain et jusqu'au 15 septembre à la galerie Barbier et Maton à Paris, dans le 9e arrondissement. Dans cette expo, 150 de vos œuvres papier, donc, seront exposées. Des planches originales, des dessins, des couvertures de Bill Baroud au Retour à la Terre, une expo qui n'est pas nostalgique. En fait, il s'agit en réalité d'un dernier regard vers une certaine manière de pratiquer la BD avant de repartir vers d'autres aventures. Vous n'avez vraiment aucune nostalgie ?
Ah non, aucune. Je continuerai à dessiner sur papier pour mon plaisir personnel, mais pas en bande dessinée. La bande dessinée, c'est un art répétitif. On fait entre 6, 9 cases par page. Si on n'est pas à l'aise avec ça, c'est qu'il faut changer de métier. Donc moi, j'en avais marre de pas pouvoir lancer mon geste, de toujours être obligé de s'arrêter à la case. C'était devenu saoulant parce que je vous dis, ça fait très longtemps que je fais ça.
Vous avez fait exploser les cases quand même.
Oh, pas tellement. Je suis pas un grand exploseur de cases.
Ah bon,
comme on dit par chez nous. Non, je crois pas. Et en fait, le dessin, c'est quelque chose qui doit être libre. Enfin, moi, je le conçois comme ça maintenant, en vieillissant. Ça doit être libre. Si on est dans la case, déjà, on est en train de castrer son dessin. Mmh. Tandis que si on est sur des grandes feuilles, qu'on fait ce qu'on veut et qu'après, on reprend ce qui est bon et qu'on le met en page, là, ça commence à être intéressant. Mmh. Et puis après, on passe à l'étape au-dessus. Mais moi, c'est de passer complètement de dessiner maintenant sur une tablette. Et les possibilités sont infini, ce qui me relance dans le... Je commençais à me lasser, moi, vraiment, du pinceau, de la plume et du papier. C'est adorable, mais au bout de 30 ans, c'est pas possible, faut trouver autre chose, faut trouver d'autres motivations, quoi.
Donc on est bien d'accord, ni remords, ni regrets.
Ni l'un, ni l'autre, non.
Ok.
Le choix des 150 œuvres à exposer a-t-il été aisé ? Parce qu'au moment de la sortie d'un des tomes de Blast, je me souviens de vous déclarant « j'ai jamais tellement aimé mes livres et souvent j'ai eu honte de mes dessins ». Alors encore une fois, on n'est pas d'accord, hein, mais on se dit que cette expo, c'est un peu une entreprise mazo, non ?
Il y a de ça, ouais. Et c'est pas plus mal que ces planches s'en aillent. C'est bien, c'est le bon moment pour qu'elles s'en aillent maintenant. Je suis pas du tout attaché à mes originaux. C'est-à-dire que quand je les fais, je les trouve magnifiques. Et le lendemain, c'est comment dire, voilà, c'est beaucoup moins magnifique. Et donc, je suis pas du tout attaché à mes originaux. Mmh. Il y en a quelques-uns qui m'intéressent, par exemple ceux qui marquent quelque chose. Quand je sais quel cas je faisais quand mon père est mort ou quand une, voilà. Mais mes originaux, je m'en fiche un peu. Et ce qui est marrant de les voir à l'expo là, c'est de voir à quel point il y a une évolution. Et c'est ça qui me rend le plus fier. Mmh. C'est-à-dire que j'aime pas 95%, j'aime vraiment pas. Mais ce que j'aime, c'est que c'est pas toujours pareil. Les erreurs sont pas toujours au même endroit.
Pour vous, la tablette graphique est synonyme de gain de temps, de possibilités techniques inédites, mais ne modifie en rien le processus créatif.
Ah non.
Je vous cite même, la technologie ne tue pas le dessin, elle le bonifie. C'est bien ça?
Alors, je sais pas si j'ai dit bonifie, mais en fait, les règles du dessin sont rigoureusement les mêmes sur papier ou sur. C'est pas parce qu'on est sur une tablette que la perspective va changer. Elle est comme ça depuis le 11e siècle. On va pas y toucher. Donc, ça ne change en rien. Ce n'est qu'un outil. Donc, ça ne change en rien la manière de composer une page, de composer une image, d'essayer de mettre une ambiance. C'est juste des outils qu'on peut modifier à l'infini. Et des milliers d'outils. Donc effectivement, c'est passionnant, mais j'en suis qu'au début, quoi. Je tâtonne, je suis nul là-dedans. En plus, j'ai pas un grand attrait, moi, vis-à-vis de l'ordinateur. C'est pas quelque chose qui me passionne. Mais ça, il faut avouer que ça relance mon intérêt pour un dessin plus libre.
Alors justement, après avoir utilisé les mêmes instruments depuis l'âge de 12 ans, est-ce que cette transition a été compliquée ?
Très.
Techniquement, j'entends.
Mais très, parce qu'au début, vous essayez de refaire la même chose. Vous essayez de reproduire votre beau trait de pinceau que vous avez mis 30 ans à peaufiner. Et c'est impossible parce que la palette est moins bonne que mon pinceau et moi. Mais par contre, elle a d'autres trucs à me faire découvrir. Le pinceau, mon pinceau à moi que j'ai depuis, je sais pas, 5 ou 6 ans, là, qui est le meilleur pinceau du monde puisque c'est le mien, et qu'il a ma patine, qu'il a ma main, qu'il a ma forme. Jamais je pourrais avoir ça sur ordi. Jamais. Mais par contre, quand j'utilise ce pinceau, je dessine plus, j'ai des tics. Je l'utilise, je le connais par cœur, je sais ce qu'il va faire. Et donc c'est saoulant. Mais c'est saoulant. De faire tout le temps la même chose. Ça devient de l'artisanat. Et moi, dans ma vie, c'était surtout ne pas aller à l'usine et éviter de faire 100 fois la même chose.
Le même geste.
Le même geste. Ça ne me dérange pas de faire le même geste si le résultat est parfois différent. Tu connais le mathématicien génial, là, comment s'appelle-t-il ?
Hawking ?
Non, l'autre, le plus vieux. Ah ! Oh, le blanc ?
Ah bah non, mais alors, nous ne sommes pas du tout des spécialistes de la mathématique ici, je tiens à...
Einstein.
Ah, Einstein, oui, d'accord.
Einstein, il disait la folie, c'est de faire 10 fois le même geste,
en fait.
c'est de faire 10 fois le même geste et espérer 10 fois un résultat différent. Et bah pour moi, c'est pas la folie, c'est l'art. C'est l'inverse de l'artisanat. C'est pas du mépris, hein, il n'y a aucun mépris vis-à-vis de l'artisanat, mais l'artisanat, 10 fois... le même geste, 10 fois le même résultat. Si on fait ça en art, c'est foutu, on a des tics. D'ailleurs, ça, dans la musique, c'est pareil, on voit des mecs qui font toujours les mêmes breaks avec des notes différentes, mais voilà, il faut ça.
Un mathématicien, je pense, chercher celui qui a eu des araignées partout, là.
Ah oui.
Spider-Man ?
Non, Villani.
Spider-Man.
Bon, depuis l'âge de 12 ans, puisque le dessin est une vocation précoce chez vous venez de le répéter, le déclic, c'est un homme que vous avez vu à l'œuvre dans Récréa 2, Cabu. Ouais. Cabu que je vous propose d'écouter parler de son travail dans une interview de 1985.
C'est traditionnel, quoi. Dès l'âge de 12 ans, j'avais envie de faire des dessins dans les journaux. Alors, j'ai fait un petit journal où j'étais le rédacteur en chef. Je distribuais, je le vendais, tu vois, je faisais tout. Et je faisais une page de dessin. Et après, à 15 ans et demi, je suis allé voir le rédacteur en chef d'un journal régional qui s'appelle l'Union de Reims. Et ils m'ont passé des dessins. Au début, un par semaine. Puis après, j'en avais presque chaque jour. J'ai appris à dessiner là. J'allais au conseil municipal, je faisais les caricatures des...
Déjà, oui. À 15 ans.
Oui, à 15 ans, oui.
Cabu, à qui vous avez dédié le deuxième tome du rapport de Brodeck, L'Indicible. C'est chouette de réentendre sa voix.
Ça me fait quelque chose, je dois vous l'avouer. Mais je me souviens de ce... Vous vous rappelez de cette émission Récréa 2 ? Bon, vous étiez dans Les Enfants du Rock, alors évidemment, c'était autre chose. Mais il y avait un type qui dessinait, c'était Cabu, et cette main armée d'un simple marqueur et qui arrivait en quelques secondes à avec ce type timide, là, avec ses cheveux devant les yeux, qui répondait très peu fort, et qui arrivait à parler à tout le monde sans ouvrir la bouche, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, on peut faire ça, c'est possible. Et du coup, c'est devenu... Et je l'ai rencontré bien plus tard, quelques semaines avant les attentats, et je lui ai dit ça, il me dit, mais t'es le millième à me dire ça, quoi. Donc comme quoi, quand on montre du talent à des endroits de grande écoute, ça génère du talent, quoi.
Absolument. Votre vie aurait été considérablement différente si dans la même émission, c'est Dorothée que vous étiez mis à admirer. Vous seriez lui en train de chanter pour les enfants.
Mais j'aime beaucoup cette femme. Pourquoi essayez-vous de me montrer
contre
cette femme ?
Il serait tatoué différemment, je pense.
Bon, revenons à votre travail et à cette expo, l'adieu au papier. Vous êtes le seul dans ce cas où d'autres dessinateurs se sont aussi mis à la tablette ?
Oh, il y en a d'autres. Bastien Vives dessine sur tablette. Enfin, en plus, il y en a plein qui font semblant de ne pas dessiner sur tablette et qui dessinent sur tablette. Mais il y a comme une... Comme pour nous, c'est comme si c'était une trahison pour les auteurs de bande dessinée. Mmh. C'est-à-dire que tout, je veux dire, maintenant, à l'art moderne, il y a de la vidéo, il y a du numérique, on s'en fout. Mais pour nous, il y avait un de vos collègues, l'autre fois, qui me tendait, qui m'a interviewé, qui me tendait un iPhone sous le nez, qui me disait, mais c'est pas une trahison, par rapport au papier, tout ça. Et je dis, bah ouais, t'as pas amené ton téléphone en bakélite, toi. Et pourquoi on serait les derniers, tu vois, à devoir charbonner comme les mecs il y a 40 000 ans sur les parois, quoi. Donc je me dis, voilà, on change tout. C'est en fait, faut pas apporter trop d'importance à ça. Ça n'est qu'un outil et de toute façon, l'important, c'est l'histoire, c'est la narration, c'est ce qu'on raconte. Le reste, ce ne sont que billevesées.
Ouais, ça calme. Alors là, pour enchaîner derrière... Ceci étant,
Cédric Villani.
Voilà.
C'est le nom du mathématicien. Oui, oui, oui. Bah, tu as toujours un petit temps de...
De la danse.
Bien vu. Non, mais c'est bien vu.
Ceci dit, avec le rapport de Brodeck, vous étiez déjà entre deux techniques, puisque vous dessiniez des scènes sur des feuilles séparées avant de les remonter. C'est par informatique que vous avez noirci les cases. Donc, c'est pas non plus.
Alors, attendez, parce que là l'auditeur. Hein, l'auditeur, comme on dit, ne va peut-être pas
perdu.
Piger.
Perdu.
Effectivement, j'avais une technique.
Moi, derrière, je m'engouffre et
C'était magnifique. Voilà, je me suis pris une claque. je faisais mes dessins sur des grands formats, ouais. Je les scannais et après, je faisais mon deuxième métier qui est graphiste. C'est-à-dire que je les mettais en page, mais je les mettais en page sur ordinateur. Ce qui me permettait d'avoir un dessin absolument libre. Et après, de pouvoir le recadrer ou le pencher un tout petit peu. Et exprimer un tout petit peu plus, voilà.
Alors, la tablette, c'est un nouveau virage dans l'œuvre de Manu Larcenet, mais ce n'est pas le premier. Votre dessin a beaucoup bougé entre vos débuts à Fluide, à l'époque de La Vie Ordinaire, ou évidemment Blast, ou le rapport de Brodeck. Vous avez des périodes, comme on peut dire que Picasso a eu les siennes.
Alors oui, bien entendu. D'ailleurs, Picasso n'était rien. Honnêtement. Ouais. Je suis un garçon bipolaire, donc je vis comme ça, avec des montagnes russes. Et tout ce que je fais suit ça. D'ailleurs, dans Blast, par exemple, quand on regarde, ça ne fait que des montagnes russes. L'histoire fait des montagnes russes. On passe par des instants très bas, puis on remonte très haut, puis on se calme, puis on redescend, puis on remonte. Donc je me suis aperçu qu'en fait, je ne faisais que ce que je connais. J'ai raconté les choses comme je les connais à cause de cette maladie. Donc c'est oui, tout change. J'essaie de changer de dessin à chaque album. Parce que je raconte pas la même histoire à chaque fois. On peut pas, enfin moi je ne peux pas raconter deux histoires différentes avec le même graphisme. C'est pas, enfin j'y arrive pas. Ça marche pas, ça colle pas quoi. C'est comme si on racontait deux films différents en noir et blanc. Si on mettait Les Visiteurs en noir et blanc, il y aurait peut-être un peu moins d'intérêt que pour Jim Jarmusch. Donc voilà, on raconte. Il faut comprendre son sujet, comprendre son histoire, et à partir de là, j'essaie de trouver un dessin qui va aller avec.
Avec Jean-Yves Ferry, votre binôme sur la série Le Retour à la Terre, dont on attend d'ailleurs le prochain tome, vous avez élaboré la théorie des trois traits. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer et est-ce que c'est celle que vous appliquez ?
Alors, avec Ferry, donc, j'en profite pour vous annoncer qu'on est en train de finir le tome 6, madame.
Ah. Wow.
Après 6 ans de
présence.
Quant à votre question, je l'ai complètement oubliée. C'est parce que j'ai des neurones.
La théorie des trois traits.
Ah, la théorie des trois traits. C'est-à-dire que ça, c'est un truc à
part. La théorie des trois traits. Manu Larcenet. Vous pouvez parler plus doucement, en fait.
Vous êtes dur. En dessin, on a toujours tendance à vouloir, surtout quand on est jeune, à vouloir un peu comme en musique, à vouloir tout montrer d'un coup. Quoi.
Cédric Villani. c'est le nom du...
Ça y est, pardon,
je vous ai interrompu.
Est-ce que vous avez reçu The Clash
Oui, mais c'est il y a longtemps.
Et alors, comment il était, Joe Strummer, sans rire?
Il était charmant.
C'est vrai, sans rire?
C'était un type absolument charmant. Le seul qui était un peu désagréable, c'était Mick Jones.
Ah ouais?
Il se la pétait un peu.
Ah, mais il avait du talent, c'est peut-être pour ça.
Oui, mais enfin, il se la pétait.
Strummer
aussi avait du talent.
Ouais, c'est vrai.
Il était un garçon avec qui on pouvait discuter.
D'accord.
Mick Jones a considérablement bougé après. Mick Jones est à son tour devenu un homme charmant.
Ah bon?
Ouais.
Depuis Bigodio Dynamite ou avant?
Bigodio Dynamite.
D'accord.
Ouais. Cédric Villani.
C'était quoi la question?
La théorie des trois traits.
C'est tout simple, c'est que Ferry et moi avons une passion pour des gens comme Sampé. Sampé, en effectivement trois traits, il va pouvoir vous camper un personnage, mais aussi une ambiance, une expression. Et tout ça avec un minimum de moyens. Donc c'est ce que je croyais qu'on voulait tous en dessin, c'est-à-dire aller vers une épure. Et autant Ferry lui y arrive, il arrive à débarrasser son dessin des scories qui sont inutiles, autant moi je me suis aperçu que je suis pas je suis pas assez zen. Je suis pas assez équilibré pour ça. Donc il y a des moments où je vais vers l'épure volontairement pour faire des planches très blanches. Mais j'ai toujours besoin, moi, ce qui m'intéresse, c'est le contraste. Donc, j'ai toujours besoin, après une planche blanche, de balancer un gros noir ou un truc plein de détails. Donc, je suis adepte de la théorie des trois traits en tant que théorie, mais je peux pas me l'appliquer à moi-même.
Cédric Villani, Manu Larsonnet, je vous propose une petite pause dans cette conversation. Est-ce que vous savez faire ça? Il sait le faire.
Ouais, c'était léger.
Bah oui, mais c'est pour lancer les pop news.
Ça s'est passé avant-hier dans le show US de Jimmy Fallon.
Here with the US TV debut of her new song, Girlfriend. Please welcome Christine and the Queens featuring Dame Funk and the Roots.
Christine and the Queens en live et chorégraphie accompagnée par les Roots, excusez du peu.
Entry for to let those buttocks reach through. What is me?
En attendant les performances de Griezmann et Mbappé, bah c'est déjà pas mal comme fierté nationale.
Notre star du jour s'appelle Johannes Rørvik-Grove. Il joue de la batterie, il a seulement 10 ans, et à 10 ans, en 12 minutes 35, il reprend la discographie de Metallica. Voilà ce que ça donne avec le Black Album. Metallica de 1983 à 2016, repris à la batterie par un môme de 10 ans, c'est la vidéo du jour et c'est à retrouver sur la page de Pop 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 sur franceinter.fr.
Une première bande-annonce pour le Dumbo en chair et en os et en cinéma de Tim Burton. Au casting, Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Alan Arkin et un éléphant trop trop mignon.
Look at that.
We're all family here, no matter how small.
C'est vraiment trop mignon. Dumbo de Tim Burton, ça sort le 27 mars au cinéma.
France Inter. Pop pop pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Ah oui.
Merci Charline. Manu Larsonnet, ne bougez pas. Enfin, j'espère, car comme vous êtes notre invité principal, si vous bougez, il n'y aura plus personne. Alors non, ne bougez pas. Donc le temps d'écouter un morceau des Stones. Et ce morceau, c'est Under My Thumb.
Me up.
Under My Thumb, c'est un morceau des Rolling Stones, c'était en 66 sur l'album Aftermath. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Manu Larsenet, venu à Paris à l'occasion de l'expo à la galerie Barbier et Maton, dans le 9e, où l'on peut voir 150 de ses œuvres. Allez, de ses dessins, je vais dire.
Parce qu'il ouais, vaut mieux dire dessins. Ouais.
D'accord. Je sais que Charline brûle de vous poser une question très technique.
Est-ce que sur ces dessins, on trouve des rochers? Est-ce qu'on doit trouver ça suspect?
Je ne comprends pas cette question, mais je vais tenter.
J'ai oui dire, enfin non, je vais pas vous dire, d'ailleurs je vais vous citer dans le
texte.
Cédric
Villani !
Avant, en général, quand je ne savais pas dessiner, je passais sous silence, je mettais un rocher devant.
Oui,
donc
c'est
je voulais savoir s'il y avait beaucoup de rochers dans les œuvres qu'on va pouvoir voir à la galerie.
Mais en vieillissant, j'ai commencé à ne plus utiliser les choses pour les cacher, mais pour cacher des choses, mais pour montrer d'autres choses. Non, en fait, il faut bien comprendre qu'en 30 ans, on change un petit peu, hein. Je sais pas si vous avez remarqué.
Doucement.
Donc j'étais nul et je suis devenu meilleur un petit peu. Mm-hmm. C'est le seul truc que je retiens de toute cette aventure. Voilà.
D'accord. Vous savez que chaque dessinateur a ses trucs et astuces, hein, en cas de panne technique. Écoutez par exemple ce que Gottlieb racontait.
Par exemple, je déteste faire des décors. J'ai fait des parodies de trucs de science-fiction. Et ben, à chaque fois, je mettais dans un décor insolite et grandiose. Et il n'y avait pas de décor du tout. Il y avait juste un truc, un bidule un peu tordu pour faire un peu SF, puis c'est tout. C'est bien de jouer avec ses propres faiblesses, parce que ça empêche les autres de dire « Ah, ce mec-là, il ne sait pas dessiner. »
Vous y retrouvez là-dedans ?
Il me manque.
Ouais.
Vraiment, cette génération-là me manque. Fred, lui. Mais j'ai été engagé, moi, par Gottlieb à Fluid. Et il m'a fait un truc, il m'a corrigé mes pages, une fois. Et dans ma tête, je dis, mais c'est qui ce vieux con qui corrige mes pages? Et donc, je rentre chez moi. Deux jours après, je regarde et chacune des petites annotations, c'était parfait. Il a dit, là, tu m'as fait une plongée, pourquoi? C'est pas un truc d'action. Oh merde, il a raison. Ça, c'est pas nécessaire. Oh merde, il a raison. Et tout ainsi, il m'a corrigé toutes mes pages. Et de lui, j'ai appris énormément, mais en très peu de temps, parce que je l'ai connu assez peu. Et il avait cette volonté, lui, de faire passer aux autres. Il voulait aider des jeunes dessinateurs, leur dire, ça, si tu fais ça, ça va pas fonctionner, tu vois, essaye. Et il disait un truc marrant, il disait qu'on pouvait pas voir les erreurs sur les originaux. Qu'on les voyait quand le fluide sortait. Effectivement, on faisait tous un débriefing et une fois il me l'a fait à moi, il m'a fait ça va pas. Mais c'est vrai que ça se voit sur le journal, c'est reproduit. On n'est plus sur l'œuvre d'art, si tu veux, on est sur sa reproduction. Donc là, on peut dire ce qu'on veut. Et là, il me disait là t'as merdé. Ah, c'est bien ça, là t'as merdé. Et j'ai appris beaucoup avec lui.
Manu Larsenet, comment évolue votre dessin, ou plutôt quel regard portez-vous sur l'évolution de votre dessin?
Du mien?
Oui.
Ah, je ne prévois rien en fait. Je prévois pas.
Non, mais quand vous regardez en arrière dans le rétro, comment vous l'avez vu évoluer ce dessin?
Il y avait une volonté quand j'étais plus jeune de par le fait que je suis un peu en marge et que j'ai du mal à parler avec les autres, à échanger, j'ai pas d'amis, j'ai pas. C'était un magnifique moyen d'avoir des, comme disait Mano Solo, des gens qui nous aiment. Mais je suis un peu touché par la voix de Gottlieb en fait. Vous me demandiez un truc alors?
Oui.
Cédric Villani, voilà, des araignées.
Non, le regard que vous portez sur tout ça.
C'est
ça a bougé avec le temps.
ça fait une vie, quoi. Ça commence à faire une vie, et c'est un peu, ça me fait flipper. Honnêtement, ça me fait flipper. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que c'est jamais la même chose, voilà. Vous verrez l'expo si vous y allez, mais même dans les livres, j'essaie, et ça, je l'ai réussi de pas faire deux, trois fois la même chose, quoi.
Alors, la fameuse expo, 150 œuvres à dessin, allez, bon, exposées à la galerie Barbier-Maton, du 15 juin au 15 septembre. Vous me conseillez de casser la petite ou la grande tirelire si je veux me porter acquéreur?
Alors, honnêtement, je connais pas les prix, mais ça doit être assez cher, normalement, ouais. Bah, j'espère gagner un maximum de pognon. Vous savez, on est dans une période où il faut accumuler et accumuler, hein. J'espère avoir... je dis n'importe quoi. Je ne connais pas les prix, mais ça doit être assez cher.
Bon, allez, la grande tirelire, alors. Une dernière chose, depuis que j'ai envie de vous rencontrer, c'est-à-dire depuis un petit moment déjà, je rêve de vous poser cette question. Comment deux de vos ouvrages, La ligne de front et Crevaison, ont-ils fait pour se retrouver sur la liste des œuvres utiles à la culture générale des futurs officiers de l'armée de l'air?
C'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Ah, mais j'étais pas au courant, mais
ah
c'est...
Bon,
alors, lequel?
Ligne de front et Crevaison.
Alors, la ligne de front, c'est un truc où j'envoie Van Gogh se faire tuer sur la ligne de front en 14-18, donc c'est un vague rapport avec l'armée, si c'est ça qu'il faut. Non, je comprends pas. Mais des fois, je comprends pas pourquoi.
Il n'y a pas la réponse.
Non,
à la question.
Alors là, j'ai aucune réponse et je me demandais. La personne qui a choisi ça, je suis très flatté, mais il faudrait qu'elle m'explique pourquoi.
D'accord.
Cédric Villani!
Manu Larsenet, il est exactement 16h54. C'est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission. Allez, j'y vais! Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui, vous? Ah, mais oui, la linéa, bah, ça fait un bail. Qu'est-ce que tu fais là? Enfin, qu'est-ce que vous faites là? C'est vrai qu'on n'a pas élevé les cochons ensemble. Quoi? Quoi? Vous avez écouté l'émission et vous êtes furax? Mais pourquoi? D'accord, à cause de Larsenet qui passe du crayon à la tablette. Mais comment ça ta gueule? On va se calmer un petit peu là, non? Oh, je sais que le crayon est la base de votre concept, mais il faut vivre avec son temps. Et puis vous savez, forcément, il y a un moment où... Bon, écoutez, il est parti. Où il est passé?
Bah, vous l'avez vexé.
Je l'ai vexé? Ah, qu'est-ce qui se passe derrière? Allô? Ah, le voilà, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, écoutez, je suis pas là pour écouter, hein. Je suis pas venu me faire engueuler, je suis juste venu chercher le dernier vinyle de l'émission. Allez, c'est ça, continuez de crier, ça ne changera strictement rien. Ta gueule, la lumière. Allez, pendant ce temps-là, je sais ce qu'on va écouter, un morceau du groupe français, La Souris Déglinguée, tiens, ça va plaire à Manu Larsenet, ça. Allez, la face B, quartier libre.
Quartier libre, et que tu t'en lasseras jamais. Ta carte est pour toute la nuit. Amène ce soir pour toute la vie.
Quartier Libre, c'est un morceau de 1988 du groupe français La Souris Déglinguée. La Souris Déglinguée. Ah,
Vélizy, c'est Vélizy, t'as eu l'idée de Vélizy, il est de chez moi.
Il était tout agité, le Manu Larsonnet, là. Bien. Avant que ce groupe ne se fasse, je rappelle que l'adieu au papier, l'exposition que la galerie Barbier et Maton vous consacre, c'est à partir de demain et jusqu'au 15 septembre à Paris, dans le 9e arrondissement. Manu Larsonnet, et vous reviendrez dans Pop 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 quand le dernier tome de votre série Retour à la Terre sera édité. Enfin, j'espère.
Un jour ou l'autre.
Oui. Faut...
Oui, oui, je
vous y engagez
ici. J'ai aucun doute sur mon éditeur qu'un jour ou l'autre il va l'éditer.
Oui, mais vous reviendrez ici.
Alors, c'est bien simple. Vous m'invitez, je viens.
Ok, d'accord.
Avec Cédric Villani.
Par contre, si vous ne m'invitez pas, je ne viens pas.
Non, non, donc nous vous inviterons.
Avec grand plaisir.
Encore merci d'être passé par Pop 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 Manu Larsonnet. Demain dans Pop 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 Masterclass avec Tim Roth. C'est dur à dire. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yavala Pointe, suivez-nous. Plutôt comme disent ceux qui font des tutos punk rock sur YouTube. Abonnez-vous.
Ça, c'est des tutos morts-vivants plutôt. Hein. C'est pas très punk.
Ça n'a rien
c'est plus zombie. C'est des tutos zombies.
Cédric
un peu.
Mélanie, au secours.
Voilà. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop. Céline, il y a avec Étienne Bertin à la réalisation. À la technique, Valentin Azanzilinski. Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef. Fanny Leroy-Claire, Sophie Collet, nos attachés de production. À la programmation musicale, Djoubaka et Simon Restat, notre stagiaire.